Le tombeau est retrouvé vide. C'est la preuve, je dirais, incontournable de la résurrection du Christ. Depuis les commencements, les chrétiens ont toujours vénéré les reliques des saints, des martyrs, encore aujourd'hui. Jamais un chrétien n'a vénéré les reliques du Christ. Parce que lorsque nous allons au tombeau de Jérusalem, il est vide. Nous nous rendons dans les cimetières pour prier nos défunts. Le Christ, nous ne nous rendons pas au cimetière pour le prier. Parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Il y avait une fois un chrétien qui disait « Si l'on avait retrouvé les os de Jésus, cela aurait rien changé à ma foi. » Eh bien si, ça change tout, parce que notre foi serait vaine, comme dit saint Paul, puisque le Christ n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne sert de rien. Or aujourd'hui, nous annonçons tout le contraire, que le Christ est ressuscité, il a été vu par plus de 500 disciples. C'est la puissance de Dieu qui s'est déployée en lui dans sa chair morte. Mise au tombeau, il est sorti vainqueur et ressuscité. Le crucifié et ressuscité, c'est cette annonce qu'ont portée les disciples dès la Pentecôte. N'allons donc plus chercher le Christ dans les tombeaux, ou n'allons pas chercher le Christ dans nos tombeaux, parce qu'il est vivant et ressuscité non seulement pour tous, mais aussi en nous. Le jeune homme, qui était sûrement un ange, dit aux femmes que c'est en Galilée qu'ils le verront. La Galilée, c'était à l'époque le carrefour des nations, où toutes les nations de ce continent quasiment passaient par la Galilée quand ils se déplaçaient. Cela veut dire quoi, ce mot Galilée? Comment l'interpréter pour nous aujourd'hui? La Galilée, c'est pour tous. Si les disciples sont invités à aller rencontrer le Christ ressuscité en Galilée, cela veut dire que le message du Christ ressuscité, il est pour tous, pour toutes les nations. Le Christ est ressuscité pour chaque homme et pour tous à la fois. Cyril Marc, tu as rencontré le ressuscité dans ta vie. Tu as vécu ce cheminement dans la recherche du Christ. Dans ta vie, tu continues à le vivre, non plus dans des tombeaux vides, comme saint Augustin qui cherchait partout à l'extérieur de lui-même Dieu et qui le trouve finalement vivant en lui. Tu le trouves donc en toi, dans ta famille, dans l'Église. La découverte du Christ ressuscité, toi qui es un scientifique, est une découverte qui est plus grande que celle qu'on fait dans l'histoire Galilée et Copernic. S'ils ont affirmé d'une manière juste que la Terre tourne autour du Soleil, avec la foi au Christ, nous affirmons que tout tourne autour du Christ. Au début de la célébration, était gravé et est gravé sur le cierge pascal Alpha et Oméga. Ce sont deux lettres grecques qui veulent dire la première de l'alphabet et la dernière. C'est-à-dire le Christ est le commencement est la fin de tout. Il est auprès du Père éternellement, sans commencement ni fin. Et aujourd'hui, nous célébrons sa puissance divine et transformatrice dans notre humanité en sa chair qui a changé la mort en vie, qui a remporté la victoire sur le mal. Je lisais ces derniers temps un livre appelé « Les voleurs de Dieu », je crois d'une Polonaise, Maria Winowska, donnant des témoignages de chrétiens en Orient, et notamment en Pologne et en Russie, après la période de la révolution d'octobre, au début du siècle dernier. Et je ne peux vous m'empêcher de vous partager un beau témoignage que j'ai lu de l'œuvre du Christ ressuscité. C'était un homme s'appelant Alexis qui avait été condamné à 30 ans de travaux forcés. Il reçoit une amnistie de 15 ans. Et donc, il retourne au printemps dans son village. Et là, il découvre l'église, sa maison détruite. Et puis, à travers une lavandière, il apprend que sa femme Thécla avait été tuée, son fils Basile enlevé, le prêtre cloué au battant des portes de la grange, et après, ils avaient ouvert les portes. Apprenant ceci, il ne peut s'empêcher de mettre sa tête dans ses mains et gémissant. Alors, excusez-moi pour les défauts de prononciation. Gospodi pomilou, ce qui veut dire « Seigneur, prends pitié ». Et puis la lavandière lui avait dit aussi ceci, que son icône provenant de la famille, elle l'avait enterrée dans la maison, à côté de la cave, sous une dalle. Depuis ce moment où il y avait eu la destruction de l'église, les habitants du village avaient gardé la foi en priant dans le secret des cœurs, sans plus avoir de culte ni la possibilité d'exprimer librement extérieurement leur foi. Alors Alexis, attendant la nuit pour ne pas être vu, va dans les décombres de sa maison, c'était la vigile de Pâques. Il commence à gratter sur le lieu indiqué par cette femme pour chercher cette icône dite miraculeuse qui était transmise dans la famille depuis des siècles. Il creuse, puis au bout d'un moment, il se dit « à quoi bon creuser ?» Voilà 15 ans que l'icône est sous terre, elle doit être complètement rongée. Et puis il se souvenait en même temps ces années de travaux forcés où son cœur s'était fixé dans la prière devant cette icône comme signe de foi et d'espérance. Et après de multiples pensées qui le traversaient tout en continuant à gratter, puis n'ayant plus guère d'espoir de la retrouver intacte, ses doigts touchent une surface lisse. Alors, il gratte avec plus d'empressement, d'intensité, de joie qui le transcende, et voilà qui a l'icône intacte, avec le Christ Sauveur, le Spasse qui le regarde avec ses yeux tranquilles, l'éblouissant de sa lumière intérieure, complètement retourné, il tombe la face contre terre, tenant toujours l'icône en ses mains, en priant toujours « Seigneur, prends pitié !» En regardant l'icône prosternée à terre toute sa vie, ses épreuves, le sens de sa vie, sa famille se trouvaient présentes dans l'invisible de cette icône. L'éternité le rejoignait dans ses terribles misères. Alors Alexis se leva, tenant l'icône en main, la souleva en l'air et cria « Christos, vos tressiez, le Christ est ressuscité !» Et passa la nuit à contempler cette icône auprès d'un feu qui l'illuminait et la lune. Cette nuit avait été pour lui le passage devant l'icône retrouvée intacte de la mort à la vie, de l'hiver au printemps, du printemps qui ne peut rien changer, dont on ne peut pas changer. Alexis repartit transfiguré dans cette nuit avec son icône dans son sac caché à la recherche de son fils Vasile. Et en chantant dans son cœur « Christos, vos tressiez, Christ est ressuscité !» Devant ce raccourci de ce témoignage imprégné de la foi en la présence du Christ ressuscité en cette icône, nous sommes invités, nous aussi, à vivre ce passage dans cette veillée pascale de la mort à la vie. Nous avons commencé la célébration dehors, il faisait nuit. Maintenant, il fait jour. C'est le symbole du passage des ténèbres à la vie du Christ ressuscité. Oui, ce matin, le Christ ressuscité vient illuminer nos ténèbres, donner sens à notre vie ici-bas et nous ouvre à la dimension d'éternité de sa victoire sur la mort et le péché. Nous traversons cette période de pandémie, eh bien le Christ vient nous illuminer pour nous dire « J'en suis aujourd'hui victorieux ». À travers ce témoignage d'Alexis, nous recevons en ce jour de Pâques cette belle tradition orientale d'adoration du Christ ressuscité à travers les icônes. Chez eux, ils posent un acte de foi et d'adoration fort par rapport à l'invisible qu'ils contemplent à travers la représentation de l'icône. Saint Jean Damascène a été au 8e siècle, sous l'invasion musulmane, qui niait toute représentation de Dieu ici-bas, un des grands théologiens de l'adoration du Christ et de la dévotion dans les icônes. Ici en Occident, à partir du XIe siècle, s'est développée surtout la tradition de l'adoration eucharistique à cause des premières erreurs enseignées là-dessus par le moine Abélard et qui se sont amplifiées avec la réforme protestante sous Luther et Calvin. Mais ces deux traditions orientales et occidentales se complètent. Elles sont toutes deux porteuses de la foi au Christ vivant et ressuscité, présent dans les icônes, présent au sacrement de l'Eucharistie. Nous savons que nos frères orientaux, nos fêtes de Pâques ne sont pas au même moment à cause, je dirais, de ce pape qui a rectifié le calendrier au 16e ou 15e siècle, je ne sais plus, 16e siècle, il me semble. Et puis, nous sommes aussi toujours dans cette division de ces églises à cause du patriarche de Constantinople et du pape qui, en 1051, pour des questions surtout politiques, se sont excommuniés mutuellement. À quand l'unité? À quand l'Église respirera, disait saint Jean-Paul II, avec ses deux poumons? Dieu seul le sait. En tout cas, nous nous réjouissons de votre présence, Cyril Marc et Nadège, où tous les deux, vous avez choisi de cheminer dans la foi catholique, avec notre communauté paroissiale. Pour toi, Nadège, tu m'avais raconté que le passage à la catholicité avait été un pas courageux et difficile, mais combien heureux aujourd'hui. À travers votre cheminement, je perçois que le Seigneur vous confie particulièrement cette mission de prier et d'œuvrer pour l'unité de son Église. Il a voulu comme fondement la foi professée de Pierre. Il lui a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Et c'est ce choix que tu as fait, Cyril Marc, fondé sur les paroles du Christ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sur l'interprétation de ces phrases et de son application que repose encore la séparation entre les églises orthodoxes et catholiques. Tous les deux, vous m'aviez aussi confié les différences de pratique de la foi au niveau des églises orthodoxes en Russie et ce que vous avez aussi découvert dans les chrétiens d'Occident. Je résume dans ces mots la gratuité de la foi et la confiance, je dirais, mutuelle. La confiance sans chercher à la mériter, gratuite. C'est, je dirais, ce qui découle de l'enseignement du Christ. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En effet, Jésus a donné sa vie par amour pour nous sur la croix et il est ressuscité sans attendre que nous l'ayons mérité. Eh bien, frères et sœurs, nous proclamons ce matin, dans l'espérance, la victoire du Christ sur les ténèbres qui nous divisent. Le chrétien est toujours, quelles que soient les périodes qu'il traverse, dans l'espérance, parce qu'il croit que le Christ a triomphé sur les puissances de la mort. Il est aujourd'hui vivant. Il a dit à Saint-Pierre, sur son Église, les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. En effet, ce matin, proclamons, le Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Il nous envoie tous en Galilée pour l'annoncer. Alors nous pouvons dire ensemble, le Christ est ressuscité, alléluia. Le Christ est ressuscité, alléluia. Puis vous allez nous le dire en russe aussi. Alléluia.